Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Se loger n'est pas un crime, c'est un droit. Les 39 associations du collectif des associations unies se mobilisent avant l'examen par le Sénat fin janvier de la loi dite anti-squat. La porte-parole du collectif et directrice de la Fédération des acteurs de la solidarité, Nathalie Latour, sera l'une de nos invitées. La grève ce jeudi contre la réforme des retraites et le report de l'âge légal à 64 ans s'annonce très suivi, notamment dans l'éducation et les transports. Nous y reviendrons avec Bernard Guidou, secrétaire général adjoint de l'UCR-CGT. Le FMI reste un partenaire solide de la Tunisie, selon sa directrice générale. Elle s'est entretenue avec la chef du gouvernement, Najla Bouden. Un sommet sur la cause palestinienne, c'était ce mardi au Caire, une réunion en présence des dirigeants égyptiens, jordaniens et palestiniens. 14 personnes, dont le ministre ukrainien de l'Intérieur, sont mortes dans le crash d'un hélicoptère en Ukraine. Les élèves de terminale peuvent faire leurs vœux depuis ce mercredi sur Parcoursup, la plateforme d'orientation dans l'enseignement supérieur. Adoptée à l'Assemblée nationale, la proposition de loi dite anti-squat doit être discutée à la fin du mois au Sénat. Un texte qui a rencontré l'opposition de la gauche et celle des associations pour le droit au logement. Entretien avec la directrice de la Fédération des acteurs de la solidarité, Nathalie Latour. Elle dénonce une criminalisation des personnes en situation de pauvreté et a fait part de son inquiétude au président du Sénat avant l'examen de la loi par la Haute Assemblée. Nathalie Latour.
Ce texte est extrêmement préoccupant pour nous, puisqu'il comporte beaucoup de dispositions qui sont des formes de régression sociale et qui auront des impacts extrêmement importants sur les personnes en situation de précarité, puisque notamment il est prévu des peines de prison pour impayés de loyer. Donc au moment d'une crise du logement sans précédent, de plusieurs centaines voire milliers de personnes qui ont des problèmes de sans-abrisme, l'impact que pourrait avoir cette loi sur l'aggravation de la pauvreté en France fait que nous nous mobilisons pour que ce texte puisse être enlevé du débat parlementaire.
C'est un texte mal nommé, selon vous, cette loi dite anti-squat ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quelques situations tout à fait exceptionnelles qui ont été médiatisées à outrance et qui ne reflètent absolument pas la réalité de ce qui se passe sur la problématique des squats ou des impayés de loyer. Aujourd'hui, pouvoir avancer sur un système qui permet d'équilibrer les droits des propriétaires et les droits des locataires, il y a déjà beaucoup de choses qui existent et qui sont totalement condamnables. La seule chose qu'apporterait cette loi, c'est vraiment, encore une fois, de condamner et de criminaliser les personnes qui sont en situation de pauvreté. Je ne pense pas que nous allons résoudre la problématique de la crise du logement en s'attaquant aux personnes en situation de pauvreté et en les mettant en prison.
Vous le dites, vous dénoncez une criminalisation des personnes les plus précaires aujourd'hui.
Exactement, alors que nous sommes dans une dégradation des moyens de condition des personnes par l'inflation. Il faut savoir aujourd'hui que pour les personnes les plus en difficulté, le logement représente 65% de leurs dépenses. Donc quand vous avez des factures d'énergie qui augmentent, ça déstabilise totalement votre équilibre financier. Et là, plutôt que d'aller les aider et donc aussi d'aider le propriétaire à recouvrir sa dette s'il y a un problème de parcours à un moment donné, eh bien on va être dans des logiques d'expulsion sèche, voire de peine de prison. Je crois pas que nous ne croyons pas qu'aujourd'hui le pays ait besoin d'une telle régression en termes de valeurs de solidarité et de cohésion sociale.
Avez-vous constaté une hausse des impayés ces derniers mois face à cette inflation galopante ?
Oui, nous avons constaté une hausse, malheureusement, des impayés de loyers par l'Union sociale pour l'habitat qui a communiqué là-dessus. Et c'est pour ça que nous sommes à un moment. Normalement, le ministre du Logement avait annoncé un plan logement d'abord 2. Cette loi est complètement contradictoire avec le plan logement d'abord 2 et la prévention des expulsions. Elle est contradictoire avec un pacte de solidarité qui est annoncé pour le mois de mars. Donc, on ne comprend absolument pas et nous sommes même très choqués. On a l'impression d'être revenus à l'époque des Misérables et de Jean Valjean.
Et aujourd'hui, justement, quelles mesures attendez-vous de la part du gouvernement et quelles mesures lui demandez-vous ?
On attend de la part du gouvernement de renforcer la politique du logement et de renforcer la politique du logement d'abord pour que tout le monde puisse y accéder. Il y a plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées en France parce qu'on a une vraie crise de logement. On n'est pas assez ambitieux sur la construction de logements. Il faudrait plutôt renforcer le système de prévention des expulsions qui permettrait aussi de continuer à garantir des droits pour les propriétaires et qu'on arrive, encore une fois, à avoir un modèle de cohésion sociale qui réponde à l'ensemble des populations sur le territoire.
Le pacte des solidarités qui vise à lutter contre la pauvreté sera publié à la mi-mars. C'est une annonce du ministre des Solidarités. Qu'en attendez-vous ?
On en attend autre chose que d'être simplement la réparation d'autres lois qui ont des impacts énormes. L'intérêt du pacte des solidarités, c'est d'avoir une action préventive, c'est d'avoir une action ambitieuse de réparation de la pauvreté. Si on, en même temps que cela, le gouvernement prend un certain nombre de mesures ou de lois qui vont aggraver la situation des personnes en situation de précarité, on est dans quelque chose qui est assez ubuesque. C'est-à-dire qu'on va réparer d'un côté ce qu'on détricote de l'autre.
Aujourd'hui, les étrangers, les familles monoparentales et les jeunes sont les catégories les plus touchées par la pauvreté.
Mais les personnes qui travaillent sont aussi touchées par la pauvreté. Bien sûr, les jeunes, les familles monoparentales. Mais aujourd'hui, même en situation de travail, on voit de plus en plus de personnes qui sollicitent aide alimentaire, qui ont du mal à boucler les fins de mois parce que l'impact de l'inflation, quand vous avez un petit budget, est extrêmement violente sur le fait de payer vos factures d'énergie, le fait de payer votre alimentation. Et donc, même des gens qui travaillent aujourd'hui sont en situation extrêmement compliquée et tendue dans le climat économique que nous vivons actuellement.
Vous soulignez que le nombre de travailleurs pauvres aujourd'hui est en nette hausse en France.
En tout cas, il est dans quelque chose où, effectivement, on est très inquiet par rapport à un enracinement de la pauvreté et des choses qui touchent y compris les classes populaires ou moyennes, parce que aujourd'hui, le travail ne prémunit pas, entre guillemets, de l'impact de l'inflation pour les bas salaires.
Nathalie Latour, directrice de la Fédération des acteurs de la solidarité, porte-parole du collectif des associations Unies. C'était ce mardi au Caire, un sommet entre les dirigeants égyptiens, jordaniens et palestiniens, une réunion internationale pour discuter des enjeux de la cause palestinienne. Mahmoud Abbas, Abdel Fattah al-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie ont mis en garde contre l'absence d'une solution politique à la cause palestinienne. Une réunion du Conseil des ministres ce mercredi matin était axée autour du dossier critique de l'électricité au Liban, la deuxième réunion du gouvernement sortant depuis qu'il est chargé d'expédier les affaires courantes à la suite des élections législatives de mai dernier. Plus de 3 ans après le début de la crise économique en octobre 2019, l'inflation est galopante et la chute de la livre libanaise vertigineuse. Selon la Banque mondiale, plus de 80% de la population libanaise vit dans la pauvreté. Les autorités françaises se disent extrêmement inquiètes de l'état de santé d'un franco-irlandais détenu depuis octobre en Iran. Le ministère français des Affaires étrangères souligne que cet homme, âgé de 64 ans, nécessite un suivi médical approprié qui n'est pas assuré dans son lieu de détention. Le FMI reste un partenaire solide de la Tunisie, selon sa directrice générale. Elle s'est entretenue avec la chef du gouvernement, Najla Bouden. C'était lors de la 52e réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos. La directrice du Fonds monétaire international, qui a tenu à transmettre un message de soutien au processus de négociation avec la Tunisie, jusqu'à l'aboutissement à un accord final entre les deux parties, soit un crédit de près de 1,9 milliard de dollars qui s'étalera sur 48 mois. Au moins 14 personnes, dont le ministre ukrainien de l'Intérieur, sont mortes dans le crash d'un hélicoptère en Ukraine. L'engin s'est écrasé près d'une école maternelle dans la région de Kiev. 3 enfants font partie des victimes. La grève ce jeudi contre la réforme des retraites et le report de l'âge à 64 ans s'annonce très suivie, notamment dans l'éducation et les transports. La SNCF annonce une circulation très fortement perturbée avec un TGV sur 3, voire 1 sur 5 selon les lignes, et à peine un TER sur 10 en moyenne. 3 lignes du métro parisien seront fermées. La RATP évoque un risque de saturation sur les lignes ouvertes. 20% des vols devraient être annulés à l'aéroport d'Orly où des retards sont à prévoir pour les liaisons qui seront maintenues. 70% des enseignants du primaire seront en grève et de nombreuses écoles entièrement fermées. Sur cette mobilisation, entretien avec Bernard Guidou, secrétaire général adjoint de l'Union confédérale des retraités CGT.
Je pense que cette journée va être très forte. C'est un mouvement interprofessionnel et intergénérationnel, à l'appel de toutes les organisations syndicales, ce qui est quand même rarissime dans notre pays depuis quelques années, avec une opinion publique qui condamne cette réforme de retraite qui va allonger la date de départ en retraite, mais aussi le nombre de trimestres cotisés pour avoir une retraite complète. Donc on pense que nous, la CGT, avec ses conditions unitaires et le refus de la population, on va vers un mouvement puissant.
Vous évoquez un mouvement intergénérationnel, vous vous réjouissez de la mobilisation, notamment des syndicats étudiants comme la FAGE et l'UNEF.
Tout à fait, on se réjouit non seulement de la mobilisation des jeunes, mais aussi des retraités actuels, où le gouvernement tente et va tenter dans les jours qui viennent d'opposer ceux qui vont partir à la retraite dans des conditions moins bonnes que ceux qui sont en retraite aujourd'hui, mais j'en profite pour le dire. Aujourd'hui, au-delà du départ de l'âge à la retraite à 64 ans, donc 43 annuités, ce qui est visé, c'est la baisse des pensions. C'est-à-dire que la plupart des gens intègrent le milieu du travail à 23, 24, 25 ans. Donc 43 ans de cotisation, ça veut dire 67, 68 ans. Et si les gens partent à 64 ans, ils subiront ce qu'on appelle la décote, hein, qui est un système bien connu des générations qui sont déjà parties en retraite, qui abaissera de manière importante les pensions. Et donc, les retraités actuels seront stigmatisés pour une nouvelle fois, être obligés de faire des efforts qu'ils n'ont pas à faire.
La grève de ce jeudi, les différents mouvements de grève, il s'agit de mouvements reconductibles.
Nous, on est retraités, donc on regarde un peu le phénomène des grèves, qui va être important, qui va peser lourdement dans ce mouvement. On apprécie qu'aujourd'hui, la plupart des périmètres économiques où est implantée la CGT et dans l'unité avec d'autres organisations syndicales décident des modalités d'action pour travailler les suites. Voilà, nous on est bien entendu très attentifs à ce qui se passe.
Quelles sont vos revendications à vous, justement?
Alors nous, nos revendications, c'est déjà le refus de cette réforme, hein, qui est vraiment insupportable par rapport à tout ce qu'on subit depuis quelques années. Et nous, on maintient les trois revendications autres qui accompagnent ce mouvement et qui d'ailleurs sont connectées au financement des retraites. D'abord, augmentation des pensions et des salaires. Aujourd'hui, malgré que l'année dernière, nous avons obtenu 4% d'augmentation sur le régime général et 5,1% sur les retraites complémentaires, vu l'inflation, c'est de nouveau, une nouvelle perte des retraités en termes de pouvoir d'achat autour de 2%, qui se cumule déjà à une perte de niveau de leur pension depuis maintenant 14 ans, qui s'établit à 2,5 pensions par an, ce qui est énorme. Et donc, première revendication nous compose, c'est la question d'augmentation des salaires et des pensions. Pourquoi je dis que c'est lié à la réforme des retraites? Ça veut dire que si demain, on augmente les salaires dans les entreprises et on augmente les pensions, c'est donc des cotisations qui rentrent en plus et donc qui pérennisent notre système de retraite actuel. Deuxième revendication, c'est tout ce qui tourne autour de la santé, c'est plus supportable. D'ailleurs, les médias s'en font l'écho maintenant de manière régulière. Il faut maintenant financer et arrêter de, j'aurais tendance à dire, de tourner autour du pot, financer de manière sérieuse notre système de santé qui est vraiment en grosse difficulté au niveau de l'accueil de nos patients, au niveau des conditions de travail des personnels. Troisième revendication, c'est les services publics de proximité. Aujourd'hui, face à la dématérialisation qui est maintenant une obsession du gouvernement et du patronat, on met un certain nombre de citoyens, alors en majorité des retraités, devant un abandon d'un certain nombre de services qui devraient leur être rendus de manière régulière dans les territoires. Je parle par exemple plus de guichets SNCF, plus de bureaux de poste, etc., etc. Donc tout ça fait que les retraités se retrouvent dans des situations très compliquées, mais je le redis, pas que les retraités. Voilà. Donc nous, on accompagne ce refus de la réforme proposée par le gouvernement, imposée par le gouvernement à l'heure où on parle, par des propositions qui permettent à ce que nos concitoyens vivent beaucoup mieux, mais aussi qui permettent, par des mécanismes qui existent aujourd'hui, de financer par le salaire, ce qu'on appelle nous le salaire socialisé, l'avenir des retraites, l'avenir de la sécurité sociale et le financement des services publics.
Cette réforme suscite l'inquiétude du secteur associatif qui craint un manque de bénévoles. C'est aussi l'une de vos inquiétudes?
Oui. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est une bonne chose que le mouvement associatif soit alimenté de manière importante dans notre pays. C'est la preuve que nos concitoyens sont, sont, comment dire, dans l'intérêt collectif, hein, ce qui est une richesse dans un pays. Par contre, tout ne peut pas reposer sur les abandons des pouvoirs successifs qui renvoient la misère que crée leur politique au milieu associatif. Par contre, nous, on se félicite que de nombreux retraités se retrouvent dans des engagements importants, dans toutes les associations, dans les mairies, enfin, au niveau électif. C'est une force, les retraités. Voilà, donc c'est aussi une de nos revendications qu'on permette au milieu associatif de vivre dignement et de leur donner les moyens, surtout.
Vous évoquiez l'impopularité de cette réforme des retraites, mais face à une menace de blocage du pays, craignez-vous que les Français changent de camp dans cette bataille de l'opinion, parce qu'il y a aussi une bataille de l'opinion.
Je comprends. Pour l'instant, ceux qui annoncent un blocage du pays, c'est le gouvernement. Via les médias dominants de ce pays, on annonce maintenant depuis plusieurs jours plus d'essence, les transports bloqués, mais tout ça, c'est pas à l'ordre du jour à l'heure où on parle. Quand Madame Borne dit l'autre jour sur la 2, j'ai besoin que les syndicats soient un peu plus raisonnables, on aurait tendance à lui retourner le compliment en lui disant, écoutez, quand vous avez tous les syndicats de votre pays, une majorité des Français qui vous dit que votre réforme est pas bonne, si à un moment donné, malheureusement, pour nos concitoyens, on en arrivait au blocage d'un certain nombre d'éléments de l'économie, ça serait elle qui serait responsable. Faut savoir à un moment donné, quand on est dans une démocratie, entendre ce que disent les syndicats, c'est quand même pas rien quand tous les syndicats sont sur la même position. Ce que disent la majorité des Français, faut savoir l'entendre, retirer sa réforme et se mettre autour de la table pour négocier quelque chose qui correspond plus à ce qu'attendent les syndicats et nos concitoyens.
Bernard Guidou, secrétaire général adjoint de l'Union confédérale des retraités, CGT. Les élèves de terminale peuvent faire leurs vœux depuis ce mercredi sur Parcoursup, la plateforme d'orientation dans l'enseignement supérieur. Lycéens et étudiants peuvent formuler jusqu'à 10 vœux non hiérarchisés pour des formations sélectives ou non sélectives dans les établissements de leur choix. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Samia El Haraj, adjointe de la maire de Paris en charge de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap et porte-parole du Parti Socialiste Pluriel, une émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.